en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
La musique, la peinture, la sculpture, la gravure, l'architecture, le cinéma sont en bonne place sous les ors de l'Académie des Beaux-Arts. Il leur manquait leurs petits frères, leurs cousins ou peut-être leurs jumeaux. Voilà que la photographie fait ses premiers pas sous la coupole. Et Lucien Clergue est le premier photographe à siéger à l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour Lucien Clergue.
Bonjour.
Merci d'être venu parler à notre micro. De vous prêter à cet exercice où l'on ne vous voit pas, où l'on n'est pas vu, mais où les mots peuvent suggérer peut-être les images. Lucien Clergue, vous êtes célébré dans le monde entier pour avoir fait dialoguer la photographie avec la peinture, avec la poésie. Vous êtes le maître incontesté du nu, de la tauromachie. Et alors que vous courez la terre entière pour donner aujourd'hui des conférences, que l'Académie des Beaux-Arts vous appelle à elle, comment prenez-vous le temps de photographier en ce moment ? Est-ce que ça demande du calme, une liberté d'esprit de photographier ? Au contraire, c'est dans une passion, dans la frénésie que vous photographiez le mieux ?
Photographier, ça peut se faire dans toutes les circonstances. Dans mon activité, dans ce qui m'intéresse, alors vous avez parlé du nu tout à l'heure, ça demande du calme. C'est en général, moi je travaille en extérieur, je travaille pas du tout en studio avec des projecteurs, avec des assistants et tout le tralala. C'est un dialogue entre le modèle et moi, ou les modèles et moi. Et bien souvent, c'est si possible sur la plage, au bord de la mer, dans une lumière idéale et une atmosphère idéale. Par contre, si je fais des photographies de corrida, il est évident que là je suis mêlé à une foule. Aux arènes de Nîmes, il peut y avoir jusqu'à 18 000 personnes. Et il y a toute l'ambiance autour. C'est une tension très vive parce qu'il y a danger de mort. Là où je me trouve bien souvent aux arènes, je sais que je peux risquer ma vie. Un taureau peut sauter et me blesser grièvement ou me tuer dans la barricade.
Voilà. Vous n'êtes tout de même pas dans l'arène quand vous photographiez.
Je ne suis pas dans l'arène, mais je suis juste derrière la barricade, c'est-à-dire avec les protagonistes et... Je suis vraiment dans les coulisses du drame, quoi. Pour la corrida, c'est chaque seconde est mortelle.
Alors, vous commencez la photographie très jeune, dès l'enfance, dites-vous, vous prenez l'appareil. On cite l'âge de 5 ans pour votre première photo, c'est vrai ?
Non. Bon, on va pouvoir commencer à rectifier certains faux bruits. Non, à l'âge de 5 ans, j'ai dû tenir un violon dans les mains. Ma mère voulait que je sois violoniste. Ma mère voulait que je sois un artiste. Entre guillemets, dans une notion assez romantique, probablement, des années qui précédaient la Seconde Guerre mondiale. Et le violon lui semblait être l'artiste idéal. Donc, elle m'a fait apprendre le violon, pour lequel, paraît-il, j'avais certains dons. Et à l'âge de 13 ans, elle a eu l'idée malencontreuse de m'offrir un petit appareil en bakélite, un jouet, avec lequel j'ai commencé à faire des photographies de ma mère et de mon violon. Et a commencé une espèce de dualité qui s'est achevée le jour où mon professeur de violon m'a dit « Moi, je ne peux plus rien t'apprendre. Il faut que tu ailles au Conservatoire National à Paris ou au moins à Marseille. » Mais bon, on n'avait pas d'argent, c'était hors de question. Donc, j'ai laissé tomber le violon peu à peu et je me suis tourné de plus en plus vers la photographie. Et je devais travailler pour subvenir à mes besoins et vers la fin de sa vie à ceux de ma mère. Donc, je faisais les photographies le week-end ou entre midi et deux heures.
Et là, j'ai
mené vraiment une double activité qui était épuisante.
Vous prenez quand même assez de temps pour photographier, pour avoir l'audace, à l'âge de 20 ans, de tendre une photographie à Pablo Picasso. Qu'est-ce que vous lui avez tendu ce jour-là ?
J'ai montré à Picasso, et je n'avais à peine 19 ans, c'était en 53, c'était à Pâques, donc j'avais 19 ans et demi en 53. Et Picasso m'a... J'étais dans la rue, hein, et il m'a dit « je voudrais en voir d'autres ». Alors là, je me suis jeté à corps perdu, je travaillais pour Picasso, pour lui faire voir des choses.
Et qu'est-ce que vous lui avez montré ce jour-là ?
Je lui avais montré des photographies étrangement, c'était des surimpressions. Que j'ai totalement abandonné ensuite pendant 50 ans, enfin 40 ans, et que j'ai retrouvé il y a 10-15 ans, et qui est le principal intérêt de ma vie. Mais L'une de ces photographies est signée par Picasso, si bien que ce n'est pas ma meilleure photo, c'est certainement la plus chère puisqu'elle est signée par Picasso. C'était une jeune femme qui posait pour des portraits et j'avais fait des doublements, donc elle avait deux paires d'yeux, etc. Et j'avais fait des petits découpages, enfin bon. J'étais très influencé pour les portraits par Thérèse Leprat et aussi pour la manipulation par Man Ray. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis donc, quand Picasso m'a dit ça, alors je me suis jeté à corps perdu dans un corpus qui était très inattendu. C'était des petits-enfants de la rue que j'ai habillés en costume de saltimbanque, que j'ai moi-même conçu avec une amie qui m'aidait à les coudre et les fignoler. Et j'ai fait poser ces enfants, ils étaient 5, pendant 8 mois, dans les ruines de guerre d'Arles, puisque Arles avait été bombardée, ma maison entièrement démolie. Et c'est donc dans ces ruines-là que j'ai... Parce que 10 ans après, les ruines étaient toujours là. On aurait dit que les bombes étaient tombées la veille.
Donc là, plus de surimpression, et ça a quand même plu à Picasso.
Voilà. Et alors donc, j'ai fait ça, et j'ai fait en même temps des animaux morts, de ce que j'appelle la série des charognes, qui est assez dure. Parce que le Rhône fait un coude lorsqu'il arrive sur Arles, pour avant de se jeter dans la mer. Et au moment où secours de s'amorce, il jette les offrandes comme ça sur la plage du fleuve. Et ça pue en été, ça empeste. Et j'y allais avec des torchons remplis d'eau de Cologne. Je vomissais dans les coins. Enfin, c'était indispensable. J'y ai même, et je le dis avec émotion devant vous, qui êtes une charmante interlocutrice, j'avais... commerce fort agréable avec une charmante arlésienne. Un copain est venu me dire, Lucien, il est venu frapper à la porte, Lucien, il y a un chat mort au bord du Rhône, tu devrais aller le photographier. Et malheur à moi, j'ai pris l'appareil, je suis parti, je n'ai plus jamais revu cette fille. Et je la cherche désespérément. J'espère qu'elle est grand-mère et qu'elle est heureuse avec quelqu'un de moins bête que moi. Mais voilà, c'était une pulsion insupportable, quoi. Il fallait que je le fasse. Il fallait que je parle de la mort, que je la montre.
Comment est-ce qu'on travaille pour Picasso? Est-ce que vous vous êtes laissé inspirer par ses toiles et ses sculptures? Est-ce que vous vouliez répondre à certains critères esthétiques?
D'abord, il faut savoir que c'est assez compliqué. La vie arlésienne est une vie assez étrange. N'oubliez pas que c'est une ville qui a 4600 ans d'âge. C'est une ville où Van Gogh a marqué... pendant un très court de temps, un peu plus d'un an, où il a fait sa plus belle production. Et lorsque, en 1953, l'année où je le rencontre, il y avait une exposition Van Gogh au musée Réattu, au musée local, organisée par le regretté Jacques Latour. Et Picasso avait dit à Latour, quand tu décrocheras l'exposition, préviens-moi, je viendrai, je veux avoir les Van Gogh dans mes mains. C'est quand même formidable, quoi. Et vous savez, Arles a une réputation aussi, pardonnez-moi ce côté grivois, mais d'établissement de plaisir. Ce qu'on appelait maison close, etc. Bon, il y avait une ribambelle de maison close. C'était une ville ouverte, Arles, où les renégats, les reprises de justice, etc., avaient le droit de séjourner. Henri Miller en parle dans le monde du sexe, d'ailleurs, de ce bord du Rhône et de ces maisons closes. Et, bon, quand nous étions jeunes, nous disions, moi, quand j'étais petit, je faisais faire la visite aux touristes américains pour leur montrer là où Van Gogh était venu porter son oreille à Rachel lorsqu'il avait fait cet acte assez extraordinaire. Et lorsqu'on allait là, on se disait, Van Gogh est monté. Il a monté ses escaliers, il a pris la cruche, il a bu un coup, il a peut-être fermé la fenêtre. En fermant la fenêtre, il regardait encore le Rhône qui coule là. Et à cette époque-là, donc, c'était après la guerre et... les bombardements avaient laissé ces ruines, etc. Et derrière cette maison close, qui était la dernière qui subsistait, s'appelait le Novelty, qui était exactement situé entre l'église et l'école. Enfin, c'était parfait, c'était la trilogie que Jean Genet aurait aimé. Et lorsqu'on sortait par la porte de coulisses, on était dans le théâtre de Genet. Moi, j'avais l'impression que c'était une scène de théâtre. Je voyais les paravents se jouer là, quoi. Donc, si vous voulez, il y avait toute une atmosphère. Et alors, il y avait un peintre qui habitait Arles, qui a eu une heure de gloire extraordinaire, qui s'appelait André Marchand, qui est mort maintenant, qui était le rival direct de Picasso sur un plan sentimental, puisqu'il a été le premier à connaître Françoise Gillot, qu'il a eu le malheur de la présenter à Picasso, qu'il lui a kidnappé aussitôt. Et ils étaient fâchés à mort, d'une part pour ça, mais surtout au niveau de la peinture, parce que Picasso craignait l'arrivée de Marchand, qui le dérange, et il le rejetait, mais violemment, violemment, violemment. Et Marchand habitait à Arles, et c'est le premier qui a vu mon travail. Or, Marchand faisait un travail, avec Gruber, qui était le maître de Bernard Buffet, très statique. Des personnages statiques, mais devant des maisons en construction. Pour moi, j'ai repris l'idée de ces personnages statiques, mais devant des maisons en ruines. Et c'était des saltimbanques qui sortaient de l'époque rose de Picasso. Dualité que je ne comprenais pas très bien à l'époque, je l'ai compris plus tard. Mais ils étaient là tous les deux, quoi. Je les voyais. Picasso venait régulièrement au Corrida, donc on le voyait régulièrement à Arles. Et Marchand habitait là, et je crois qu'il n'aimait pas les Corridas, lui. Et donc, je le voyais souvent.
Donc, à l'époque, vous étiez autodidacte.
Totalement.
Est-ce que quelqu'un vous a initié ? Non, personne.
J'étais un pâtissier, le père d'un copain de collège qui m'a initié dans sa salle de bain transformée en chambre noire. Et j'ai fait là mes premiers développements et mes premières photographies.
Vous avez écrit dans un livre qui s'appelle Paysages, où vous avez recueilli un certain nombre de photographies faites par toutes sortes de personnes. Vous aviez écrit à l'époque, c'était en 95, « Certains pensent en professionnel, d'autres n'ont aucune ambition et s'expriment peut-être avec plus de force et de vérité parce qu'ils ne se sentent pas obligés de réaliser un chef-d'œuvre. » À l'époque, vous vous considériez comme amateur ou vous avez déjà l'ambition de faire un chef-d'œuvre ?
Non, vous savez, n'oubliez pas que je travaillais à l'usine et j'avais ma mensualité à la fin du mois, donc je pouvais survivre. Et je l'ai fait dans cette intention. C'est-à-dire, quand je suis entré dans cette usine, j'ai dit à mes amis, j'entre pour 10 ans à l'usine. Alors, ils m'ont regardé un peu stupéfait, ils m'ont dit, mais pourquoi 10 ans ? Parce que j'ai dit, c'est les 10 ans qu'il me faut pour perfectionner ma vision, pour faire les photos que je veux faire, sans être obligé qu'elles me rapportent l'argent, qu'elles me fassent vivre. Et je ne veux aussi, surtout, pas être à la merci d'un directeur d'agence ou de magazine qui me dise... va photographier le président à l'Élysée et surtout fait une photo quand il se gratte le nez ou un truc comme ça. C'était pas du tout ce qui m'intéressait.
Vous avez refusé des propositions de Paris Match.
J'ai refusé les propositions d'un administrateur de Paris Match et de Jour de France à l'époque, qui l'a stupéfait d'ailleurs, il me l'a dit plus tard. Il m'avait même proposé de me prêter de l'argent, j'en ai pas voulu. Je voulais, et j'ai gardé toute ma vie ma liberté.
Par la suite, vous rencontrez une autre personne qui sera déterminante pour vous, Cocteau. Cocteau qui vous surnommait le coq d'Arles.
Oui.
Pourquoi le coq d'Arles, d'ailleurs ?
Il avait été écrit en 1918 un poème dans le désespoir du Nord. Et à la fin d'un sonnet ou d'une série de vers, il y a coq d'Arles feu. Alors, je lui avais posé la question et je lui avais dit pourquoi ? Vous avez dit que c'était pour la rime. Mais tout d'un coup, je suis devenu le coq d'Arles. Coq d'Arles, parce que, je sais pas, parce que mes cheveux étaient un peu ébouriffés, donc ça lui pesait comme ça. Voilà, j'étais le coq d'Arles.
À l'époque, vous photographiez donc beaucoup la mort, qui est omniprésente dans votre langage. J'ai noté Roland Barthes, qui parle aussi beaucoup de mort dans son livre La Chambre Claire. Pour lui, le photographe, en quelque sorte, assassine la personne. Il dit... que lorsqu'il est photographié, il vit une sorte de micro-expérience de la mort, qu'il devient un spectre. Et le photographe, dit-il, le sait bien et lui-même a peur de cette mort dans laquelle son geste va m'embaumer. À l'époque, vous n'aviez pas peur, vous, de la mort.
Attention, les photographies de charogne, les photographies de cimetière, ce sont des questions posées à la mort. À cette époque-là, il y avait un poète argentin, je crois qu'il s'appelait Atahualpa Yupanqui, qui avait écrit une série de poèmes qui était une chanson qui s'appelait Pregunta sobre Dios, question à Dieu. Et moi, c'était les questions à la mort, parce que ma mère était morte après une très longue maladie. Elle a été malade de toute mon existence. Donc, je n'aurais pas dû naître. J'ai fait une culpabilité constante et toujours aujourd'hui avec une espèce d'obsession d'Oreste, quoi. Mon rêve eût été de faire un film sur l'Orestie d'Eschyle pour peut-être conjurer cette obsession. Et donc, c'est compliqué à expliquer, mais lorsque ma mère est morte, étant donné que nous avions un commerce avec la mort permanent, ma mère, tous les soirs avant de se coucher, me parlait de sa mort. Ma mère, à l'âge de 13 ans, lorsque m'a offert l'appareil en bakélite, m'a quand même dit, à partir de désormais, on ne s'embrassera plus le soir, parce que je suis trop vieille, trop laide et trop malade pour un petit garçon comme toi. C'est effrayant. Et donc, nous vivions avec ce personnage de la mort qui était assis dans un coin et regardait et attendait qu'elle soit prête. Si bien que lorsqu'elle est morte, ce n'est pas qu'elle qui est partie, c'est aussi ce personnage de la mort qui a quitté la maison. je les recherchais. Et j'allais au bord du Rhône, qui était une hécatombe, quoi. C'est des chats, des chiens, des oiseaux. Depuis là, je suis en Camargue. Alors, en 56, il y a eu un hiver effroyablement glacial où le thermomètre tombait à moins 26. Les flamants gelés, les pattes prises dans la glace. Et on aurait dit les grandes chasses de Rambouillet de part et d'autre du talus. Il y avait des flamants énormes, comme ça, avec leurs grandes ailes, leurs grandes pattes mortes. Et j'ai fait ça, mais pour moi, il y avait toujours la transposition. C'est-à-dire que les flamants morts au bord du talus, c'était les jardins Gobavion de Max Ernst. Et étrangement, c'est Max Ernst qui a acheté les premières photos. Quand il a vu ces photos, il a tout de suite vu quelque chose qui lui parlait. Donc, il y avait toujours chez moi cette dualité. Il y avait aussi, il y a le côté mythologique qui est très important à Arles, qui est une ville romaine et antique, et bon, le labyrinthe, tout ce qu'on veut, tout est là. Et pour moi, les charognes, c'était Antigone veillant le corps de ses deux frères. Alors, je me trouvais parfois, je me suis trouvé plus tard dans des situations un peu scabreuses, parce que lorsque j'étais au Japon, je faisais une conférence, je parlais de ça, le traducteur m'a arrêté tout de suite. Il me disait, nous, on ne sait pas ce que c'est, le Créon et Antigone, trouvez une autre équivalence, mais nous, on ne sait pas de quoi vous parlez. Donc, j'avais mon monde, et je l'ai toujours. Je suis un méditerranéen, et je suis marqué par la mythologie méditerranéenne.
Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Barthes que, quand même, la photographie a rapport avec la mort? Est-ce que, ensuite, par rapport...
Si, c'est une... Non, c'est vrai qu'il a...
Même avec vos nus.
C'est une exécution capitale. Vous savez, dans le cinéma, vous filmez, et le type sort de l'écran, il continue à courir, hein, derrière l'écran. Dans la photo, vous avez fait clic, paf, il est arrêté. Figé. C'est terminé. C'est une exécution capitale. C'est pour ça qu'on est très mal vu. Et en particulier, vous avez beaucoup de peuplades, beaucoup de peuples primitifs ou autres, ou même des gens que nous connaissons, que nous fréquentons, les gitans, par exemple, on n'aime pas trop être photographiés. Si vous allez dans une caravane de gitans, vous ne voyez pas les photos des morts au mur. Moi, j'ai découvert Manitas de Plata, qui est devenu un très grand guitariste mondial, l'oncle des Gypsy Kings, qui sont plus connus aujourd'hui. Et j'étais son directeur artistique, je faisais des disques qui étaient produits, et les illustrations de ces disques. Et un jour, on a fait un disque d'hommage, et je lui ai dit, tu vas faire hommage à ta mère. Et j'ai mis la photo de sa mère dans le disque. Il refusait de signer le disque, parce qu'il ne voulait pas voir la photo de sa mère, qui lui rappelait que... Donc, sa mère était morte entre-temps. Donc,
la croyance que la photographie prend l'âme de la personne.
Ah oui, elle prend l'âme, elle prend beaucoup... D'ailleurs, on le dit, prendre une photo. Hein, et donc, on prend tout en prenant la photo.
On marque une toute petite pause.
Pourquoi la musique de Mozart est-elle tout à fait accessible à tout cœur humain? Gilles Cantagrel, correspondant à l'Académie des Beaux-Arts, est venu présenter une communication sur Mozart le 22 mars 2006 devant les membres de l'Académie. À travers les manuscrits du célèbre compositeur, Gilles Cantagrel vous propose de découvrir, selon ses mots, quel fut le tempo de la vie du célèbre compositeur dont la brièveté souligne le génie miraculeux. Retrouvez Gilles Cantagrel dans l'émission En séance.
Lucien Clerc, nous parlions un peu plus tôt de votre rencontre avec Cocteau. Vous l'avez rencontré par l'intermédiaire de Picasso. Et il y a une très belle correspondance qui est parue d'ailleurs chez Actes Sud, correspondance entre vous et Jean Cocteau, où vous échangez des lettres, au début assez touchante, très, très prude. Très... Et puis, par la suite, on comprend qu'une vraie amitié s'y est nouée entre vous. Cocteau vous a écrit un moment... Vous a demandé à ce que votre angle de lumière aborde un autre monde, comme dans les admirables nus, vos bêtes mortes doivent être une rareté. Est-ce que ce moment-là a été déterminant pour faire davantage de nus?
Oui, il n'y a pas eu que ça qui était déterminant. J'imagine. Je veux dire que avant l'épisode Cocteau, il y avait eu un court épisode Michel Déris, qui habitait tout près de l'endroit où nous sommes. À rue des Grands Augustins, et il m'avait aussi conseillé de faire attention avec les charognes, de ne pas trop en faire. Mais il y avait pire que ça, c'est que toutes ces photographies, naturellement, je les tirais chez moi, et je les étalais par terre, et mes copains venaient le soir me rendre visite, et alors ils commençaient à en avoir marre de voir des charognes, des cimetières, et puis peu à peu, ils ne venaient plus. Et je me suis dit, le seul moyen de les faire venir, c'est de faire des photos de nus, parce que ça va les attirer. Et donc, j'ai demandé à des copines de poser, et, bon, d'abord timidement, d'abord le haut, puis ensuite... Mais ils sont revenus. Voilà. Et donc, si vous voulez, il y avait également un docteur qui me soignait, docteur Béraud, qui était un homme merveilleux, qui est le papa d'ailleurs d'une galeriste très connue à Paris, qui s'appelle Catherine Boutman. Et Paul Béraud me disait, écoute, apporte-moi tes photos, en voyant tes photos, je te dirai, alors j'apportais mes photos de cimetière, de charogne. Bon. Il me donnait des antidépresseurs, etc. J'étais d'une angoisse folle, enfin, c'était insupportable, c'était une vie insupportable que j'ai eue. J'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu de jeunesse, enfin, c'était... Et un beau jour, je suis arrivé avec les nus. Et là, il a éclaté de rire. Il m'a dit, bon, ça va, tu n'as plus besoin de moi, Foucault, je veux plus te voir. Et merci à toutes ces charmantes dames, demoiselles qui ont posé pour moi et m'ont permis de m'en sortir certainement.
Alors, comment est-ce qu'on passe d'un paysage à un sujet ? Quel rapport de distance ou de fusion est-ce que vous mettez entre les personnages et vous ? Je parle aussi pour les gitans.
Oui, alors les gitans, c'est très particulier. Hein. Les gitans, c'est d'abord mon quartier où ils habitent. Le nouveau quartier, en fait, puisque nous avons été bombardés et on appelait ça être transférés d'un endroit à un autre. Et on était transférés dans le quartier des Gitans. Je les ai surtout fréquentés dans le pèlerinage des Gitans qui a lieu chaque année au Sainte-Marie-de-la-Mer le 24 et 25 mai. Comme j'étais employé de cette usine de distribution alimentaire, j'allais aider le succursaliste qui, évidemment, ce jour-là, était débordé par l'assaut de tous ces gitans venus de toute l'Europe. Et puis le soir, j'allais dans les campements faire des photographies. Donc là, il n'y avait pas de distanciation avec quelques paysages que ce soit, un peu la mer, mais à peine. C'était vraiment au cœur du campement, plus exactement. Comme il n'y avait à ce moment-là pratiquement pas de touristes, ils me laissaient faire parce que j'en connaissais deux ou trois et qui me facilitaient l'approche, quoi, parce que c'était un monde qui était quand même très fermé. Et puis, un ami qui était passionné de disques et qui avait une maison de commerce où il vendait des disques, était très lié avec le directeur de Vogue Contrepoint, qui était une compagnie qui enregistrait surtout des jazzmen. Mais il voulait faire un disque ethnographique sur la musique gitane de cette époque, années 55. Ils m'ont chargé, en ma qualité d'ex-violoniste, d'aller écouter des guitaristes. Et quelqu'un m'a dit, tu sais, il y en a un là-bas, tu devrais l'écouter, il est incroyable. Je suis allé écouter, j'étais stupéfait. Ce type, il ressemblait à personne. C'était quelque chose d'incroyable, enfin. Donc j'ai vite appelé, je leur ai dit, envoyer un technicien, et on va faire un disque, on va le faire, le disque. On l'a fait, et ce disque a été une sensation. Et je n'ai eu de cesse, à partir de ce moment-là, que de faire reconnaître à la fois ce garçon, mais aussi l'ethnie gitane, d'une certaine façon. Parce que, vous savez, nous nous sommes trouvés bombardés à la faveur de ça, je passe sur tous les détails, mais nous nous sommes retrouvés en 1965, à la rentrée d'octobre, sur la scène du Carnegie Hall. Et or, ce garçon n'avait jamais mis les pieds sur une scène de théâtre. Il commençait sa carrière à 45 ans, là où les autres la finissent. Et la même année, on nous a demandé, l'impresario nous a dit, écoutez, il arrive une chose extraordinaire qui n'arrivera plus. Le 17 décembre, chaque année, à l'ONU, on lit la Déclaration internationale des droits de l'homme, en anglais. C'est un acteur réputé qui le fait, cette année c'est Sidney Poitier. Et il y a un artiste ou un groupe d'artistes, musiciens, autres, qui représentent chaque continent. Et pour le continent européen, on a choisi Manitas de Plata. Moi j'étais subjugué. Et j'ai essayé d'expliquer ça à Manitas qui ne comprenait pas. Les gouvernements, l'ONU, tout ça, pour lui c'était... Et il n'était pas question, il fallait rentrer à Arles parce qu'on rentrait en bateau. Et si on loupait cette date, c'était rentrer par avion. Et j'ai dû lui dire, tu vas jouer très exactement là où le pape a parlé de la paix. Or, le discours du pape sur la paix avait eu lieu juste avant qu'on prenne le bateau pour New York. Et alors, il s'est signé 25 fois, il m'a dit, si le pape a parlé là de la paix, il me protégera, donc je reste, je rentrerai en avion. Et Salvador Dalí, qui était à New York et que nous avions connu sur le bateau, je l'en ai informé, il m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est la première fois que la nation gitane va être à l'ONU. Alors je veux y être. Et tout Dalí qu'il était, on l'a collé comme moi dans une cabine de traducteur, on n'avait pas le droit d'être dans la grande salle. Et c'était un événement. Et j'ai appris depuis que les Gitans sont représentés par 3 personnes en permanence à l'ONU à New York. Donc, nous avons gagné. Vous voyez, la photographie mène à tout quand même.
Je vois. Et ça vous a mené aussi à illustrer de la poésie. Et avec Pourparin, Picasso et Cocteau, vous illustrez donc Corps mémorable d'Éluard. Et vous demandez à Cocteau de choisir les photos, d'écrire un poème en préambule. Vous vous sentez à l'aise avec les mots? Je sais qu'après, vous avez travaillé aussi avec Saint John Perse.
Oui.
Vous avez beaucoup travaillé aussi avec Jean-Marie Magnan, qui était votre grand compagnon de route.
Absolument. Donc, le compagnonnage des écrivains et surtout des poètes est tout à fait, je dirais presque indispensable. Nous sommes de la même famille. Je crois que si je comparais d'une manière un peu brutale, comme ça, un peu large, je dirais que la photographie et la poésie, comparée au cinématographe, qui serait le roman, la poésie, le roman, le même dédoublement. Et il y a un raccourci, n'oubliez pas, souvent on dit à propos de la poésie, on parle d'image. Donc il y a quelque chose qui fonctionne là. Et le raccourci des poètes, bien souvent, ils peuvent dire en un seul vers ce qu'un romancier dira en 3 pages. Et nous, c'est un peu pareil. Dans une seule image, on peut dire des choses qu'un cinéaste dirait en plusieurs minutes. Donc cette connivence m'était tout à fait indiquée et ça a commencé avec Paul Éluard et par la suite, je n'arrête pas. Quoi. Le dernier, c'est un petit livre d'Arabal et même un Pétrarque. J'ai illustré un sonnet de Pétrarque avec une jeune fille qui pose dans la rivière Sorgue à Fontaine de Vaucluse.
Cocteau a écrit un texte pour accompagner Poésie d'air photographieux en 1960. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas l'objectif d'un appareil qui enregistre l'image, mais bien l'œil du photographe. Et en vertu d'un phénomène encore inexplicable, le rôle de l'appareil imite celui du poète lorsque son moi nocturne lui donne des ordres. Il y a un moi nocturne aussi hein ?
Probablement, vous savez, c'est l'appareil photographique, c'est quelque chose d'assez subtil parce que ça nous permet de nous cacher. Nous sommes derrière. C'est pour ça que j'aime pas ces appareils numériques aujourd'hui, que les gens tendent à bout de bras, ils regardent sur un écran, ils sont pas impliqués dans cet appareil. L'appareil doit faire corps avec nous, comme le pinceau du peintre est dans sa main, c'est tactile, il passe à travers, quoi. Et donc, voilà, moi je me sens bien comme ça.
Vous disiez à l'instant que la photographie ressemble quelque part à la poésie, peut-être dans les non-dits, dans les ellipses, dans ce qu'il y a entre les lignes. En même temps, Barthes disait que la photographie est pleine. C'est-à-dire qu'on ne peut rien y ajouter. Il n'y a pas de place, on ne peut rien y ajouter. Elle est bondée, au contraire du cinéma, où on peut imaginer le reste.
Oui, le danger de la photographie, le danger pour les photographes, surtout les jeunes photographes, c'est la dispersion. Lorsqu'on voit arriver de jeunes photographes, on a toujours 36 directions et on ne sait pas où ils veulent en venir. Et je leur dis souvent, arrêtez-vous, faites un corpus pendant un an, ne faites que la même chose et il en sortira quelque chose. Et vous saurez mieux si vous êtes effectivement photographe ou cinéaste. Je l'avais constaté lorsque j'étais à l'École nationale de photographie d'Arles, lorsqu'on faisait les examens de passe d'entrée. On sélectionnait les élèves, souvent on voyait des erreurs de parcours, si vous voulez. On voyait des jeunes gens qui... c'était le cinéma qui était leur problème, c'était pas la photographie. Mais la photographie, c'est un peu le cinéma du pauvre. Vous savez, quand j'ai fait les saltimbanques dans les ruines de guerre pendant 8 mois, étrangement, c'était à la même époque, très exactement pendant que je faisais ça. Federico Fellini faisait la Strada à Cinecittà, à Rome. Je ne connaissais pas, je ne savais pas qui était Fellini, je ne savais pas, c'était son premier film spectaculaire présenté à Cannes. Et lorsque ce film est arrivé à Arles, je suis allé le voir tous les soirs. Pendant une semaine, je suis allé voir ce film, j'étais subjugué, quoi. C'était mon univers qui était là, c'était ce que j'avais voulu faire, qui était là sur l'écran. Je voulais faire du... En fait, moi, je voulais être cinéaste. Je pars la photo, j'ai essayé d'approcher, et puis bon, mais Arles, il n'y avait personne, j'avais pas d'argent, je ne savais pas ce que c'était ce milieu-là. C'est un jour un producteur qui est venu me chercher, c'est Pierre Bromberger, qui m'a dit, mais vos photos de taureau, il faut me faire un film, allez-y, je vous donne l'argent. Et j'ai fait un court-métrage qui...
Le drame du taureau.
Le drame du taureau, qui a été tout de suite présenté, qui a eu le prix Louis Lumière, ce qui n'était été fait pour me satisfaire, puis c'est un nom que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, il reste toujours cet équivoque avec moi. J'aurais dû être cinéaste, en fait. Parce que je voulais raconter une histoire, je voulais raconter quelque chose qui va de A à Z. C'est pour ça que j'ai fait finalement 75 livres. Le 75e paraît ce mois-ci aux éditions de La Martinière. Et parce que ça va de A à Z, il faut construire. Alors, dans le livre, j'ai parfois ajouté d'autres aspects, notamment quelque chose de tout à fait inconnu pour le grand public, c'est la fabrication du livre. La fabrication du livre obéit à des règles précises, puisque c'est une grande page que l'on couvre de reproduction, mais selon un certain ordre, et ce sont ce qu'on appelle des cahiers. Ce sont des cahiers de 8 ou de 16 pages qui vont être ensuite reliés les uns à côté des autres. Or, cette construction, en particulier les cahiers de 8, c'était plus facile. Le cahier central était une page non coupée, qu'on n'était pas obligé de joindre. Et elle était parfaite, elle était pleine. Donc, ça me donnait une respiration plus large. Voilà, on ouvrait une double page et puis on repartait sur des pages individuelles et ainsi. J'ai fait mon livre Né de la vague un peu plus tard, après Commémorable, comme ça, sur cette rythmique-là. Étrangement, c'est quand même celui qui a eu le plus de succès. Hein. Le public s'y est pas trompé, le public s'y est retrouvé. Et j'ai ajouté quelque chose de plus. C'est que j'ai fait une mise en page pour une lecture à l'occidental et une lecture à l'oriental. C'est-à-dire que nous ouvrons un livre à partir de la couverture et nous allons jusqu'à la fin, alors qu'en Orient, en particulier au Japon, on part, ce qu'on appelle la quatrième de couverture, et on va vers le début. Donc, j'avais fait la double lecture, et elles seront coupées, bien entendu, avec un centre, un pivot central, et c'est pour ça que ce livre a eu beaucoup de succès.
Alors, pour citer un autre de vos productions cinématographiques, il y a le Delta de sel, en 1967, qui est présenté à Cannes, et manque de chance, le festival n'a pas lieu cette année-là.
Enfin, et voilà.
Aucun prix n'est remis.
Non, mais voilà, vous mettez l'accent sur mes avatars cinématographiques, parce que j'ai la chance de faire ce film. J'ai un court-métrage, il est sélectionné au Festival de Cannes. Je ne vais pas au festival, je dis à mon producteur, moi je n'irai que si j'ai le Grand Prix. Donc il m'a dit, je vous préviendrai, tenez-vous prêt. Bon, c'était mai 68, commençait à se dessiner. J'étais sur un bateau avec Manitas de Plata au large de l'Italie. Et nous revenons à Cannes, pensant recueillir mon prix. Parce qu'entre-temps, mon berger, mon producteur m'avait téléphoné, il m'avait dit, écoutez, ça va, tenez-vous prêt, nous avons le Grand Prix. Nous avons la Palme d'Or des courts-métrages. Et il me dit, naturellement, j'ai le contrat qui est prêt pour votre premier long-métrage. Donc ça y est, j'étais parti pour une carrière cinématographique. Et j'arrive à Cannes, et d'abord on ne peut pas arriver à Cannes, on est à Monaco, et on me dit, tout ça est terminé, tout ça est noyé dans le bain. Claude Lelouch et un autre, là, on brandit le drapeau de la révolte, et il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix cette année, tout a été annulé. Et ça a découragé Bomberger, ça m'a découragé. Je me suis dit, si c'est ça, les gens de cinéma, c'est des fous. Alors bon, j'avais eu entre-temps un contrat de Universal Pictures pour faire un film sur Picasso, que j'ai fait dans la foulée à partir du mois d'août 68. Ça a duré 3 ans, m'ont rendu littéralement fou. J'ai vu là de près ce que c'était Hollywood. J'ai compris les problèmes de Orson Welles. Et je me disais, alors moi je suis rien du tout, et Orson Welles qui est un génie du cinéma, ils l'ont tué. Moi, je ne vais pas me faire tuer par ces gens. Je repars chez moi, je reprends mon appareil photo. Mmh. Avec 3,50 francs, je peux acheter un rouleau de film, faire 36 photos et je n'ai d'ordre de recevoir de personne. Parce que c'était inimaginable. Ces gens étaient tellement d'une telle bêtise. Ils m'ont laissé pendant une semaine docker à New York devant Guernica, le tableau de Picasso, parce qu'il fallait un objectif 35 mm, que ça coûtait peut-être 25 $ pour le louer. On a passé une semaine dans les hôtels et tout à attendre que l'ordre vienne de Hollywood pour louer ce petit objectif à 25 $. C'était d'une telle stupidité que moi, j'ai dit, ça va, je travaille plus avec des gens comme ça. Et d'ailleurs, quand j'ai vu il y a quelques années Claude Berry qui a exposé à Arles sa collection, j'ai dit en public, j'ai dit, bien, c'est grâce à ce monsieur que je suis photographe. Parce que comme il a brandi le drapeau de la révolte avec Claude Lelouch en 68, il a interrompu ma carrière cinématographique. Il était un peu déconcerté, je dois dire.
On marque une nouvelle pause.
Les gars,
Lucien Clerc, je crois que vous auriez également souhaité être musicien. Vous l'avez dit au début, vous avez pratiqué le violon pendant un certain temps. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que dans votre livre de portraits, il y a énormément de musiciens. Il y a Boulez, il y a Oana, il y a Xenakis, il y a aussi un certain nombre de jazzmen. Je crois que vous avez joué aussi du jazz, non?
Oui, nous avions à Salon de Provence, tout près d'Arles, un formidable jazzman qui était bassiste, il était cordonnier de son état, mais il s'appelait Albert Maioli, un homme délicieux. Il avait joué avec les plus grands, avec Armstrong, avec Duke Ellington, etc. Et il venait une fois par semaine nous donner des cours de jazz à Arles. Vous savez, c'était, enfin, vous ne savez pas, vous n'étiez pas nés. Mais c'était l'époque des caves, et on avait notre cave où on se réunissait une fois par semaine ou deux. Je me souviens, on y a même reçu Georges Brassens, là. Et donc, il m'apprenait le blues. Donc, j'ai joué le blues avec lui sur mon violon. Et puis, bon, tout ça s'est arrêté par le fil des choses, mais c'est une nostalgie très forte, quoi. Et le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, c'est Isaac Stern qui me l'a fait sur un bateau, sur ce fameux bateau des croisières du Renaissance où je me trouvais la première fois avec Vanitas Plata. Et Isaac Stern était avec nous sur le bateau. C'était le grand ami Jean-Pierre Rampal, que je connaissais bien, qui était marseillais. Et je dis à Stern, je lui dis, je suis surpris, vous n'avez pas mis votre programme de pièces de Bach pour violon seul. Mais il me dit, la croisière n'est pas finie. Et arrive Yom Kippour. Et la communauté juive célèbre Yom Kippour à bord. Puis le soir, toute la communauté juive musicienne dit, et ce soir, musique dans le salon. Donc, et ils nous ont la gentillesse de me prévenir. Moi, je ne suis pas de religion juive, mais j'ai été tout de suite adopté. Et alors, je suis allé dans le salon, naturellement, j'ai fait les photos. Et quand c'est venu le tour de Isaac de jouer, il m'a fait un petit clin d'œil et il m'a offert, littéralement, il m'a offert un argot de Bach d'une des sonates à violon seul. Quand je vous le dis, j'ai des larmes aux yeux parce que c'était un cadeau royal. C'était le plus grand violoniste de cette époque-là. Jean-Sébastien Bach, c'est pour moi l'absolu, parce que si vous me dites quelle est votre inspiration absolue, ben c'est Jean-Sébastien Bach. C'est-à-dire que oui, il y a les photographes, oui, il y a les peintres, oui, il y a les sculpteurs, les architectes, mais au-dessus de tout, il y a Jean-Sébastien Bach. Et j'attends avec curiosité, avec passion, avec un plaisir déjà, je le savoure, la communication de M. Cantagrel à l'Académie sur Bach. J'attends ça avec grande impatience.
Gilles Cantagrel qui est déjà venu d'ailleurs dans notre studio pour parler de Bach.
Et donc Bach, j'ai fait beaucoup de photographies en entendant littéralement la musique de Bach.
Je trouve aussi que ces photographies de musiciens sont particulières. Ils ont souvent le regard éloigné dans le vide.
Vous savez, vous avez cité tout à l'heure Pierre Boulez.
Ouais.
Avec Pierre Boulez, nous avons eu une aventure commune assez curieuse. Pierre Boulez dirigeait à cette époque-là les concerts du domaine musical. Votre génération ne peut pas imaginer ce que ça a été, ce truc. C'était extraordinaire, parce que là, Boulez faisait venir tous les créateurs de ce temps, et c'est là qu'on a entendu pour la première fois, souvent, Varèse et tous les autres qui étaient... Bon. Et Jean-Louis Barrault m'avait invité à exposer au Théâtre de l'Odéon, qui était devenu Théâtre de France. Et Boulez et Barrault étaient très amis, et Boulez était le directeur musical de la compagnie de Jean-Louis Barrault. Et donc, Barrault lui offrait l'hospitalité une fois par mois pour le domaine musical. Et lorsque j'ai eu mon exposition, nous avons mis un livre d'or dans l'exposition, dans le foyer des artistes. Et le soir du concert du domaine, c'était une création de Stockhausen, Zeklus, qui a été hué par le public et applaudi par ceux qui aimaient. Et Boulez, très courageux, est arrivé sur scène et a dit, mesdames, messieurs, je pense que c'est pas très gentil pour ceux qui ne l'ont pas aimé, mais pour les autres, on va le donner en bis. Alors, j'ai cru que le théâtre s'écroule. Je suis parti à mon expo, à l'entracte, et je vois sur le livre d'or un type qui avait écrit « Connerie ». Alors, j'attrape le livre d'or, je file dans la loge de Boulez, et je dis, vous voyez, on a le même public. Donc, on va un peu effacer Connerie, mais qu'on le voit toujours, et vous allez signer par-dessus.
Voilà. Oui, il y a une photo de Pierre Boulez qui est assez jeune, d'ailleurs.
Oui, c'était au Festival d'Aix. Je crois qu'il jouait la deuxième sonate pour piano, et j'étais là. Donc, je lui ai fait cette photo. J'ai d'ailleurs photographié Edgar Varèse chez lui, à Canvas Village, à New York, et il m'a fait écouter des airs, comme ça, là. Voilà, il m'a dit... Si ça vous intéresse, ben j'ai dit oui, et j'ai eu ce privilège extraordinaire. Enfin, je pense que notre consoeur qui est à l'Académie serait jalouse de savoir que que Varèse m'a fait écouter des airs.
À quel moment est-ce que vous avez décidé de passer en couleur? Parce que vous avez fait énormément de noir et blanc. Je pense que vous avez un...
La couleur, j'y suis passé relativement tôt, mais j'ai eu des déboires. C'est-à-dire que, bêtement, toujours à propos de ces croisières musicales, on m'avait demandé, en fait, on m'avait invité pour faire des conférences à bord et de faire des photos en plus. Donc, j'ai eu une chance inouïe, parce que pendant 3 ans, j'ai fait ces croisières. J'ai fréquenté les plus grands musiciens qui soient et j'ai vu des lieux magnifiques. Et donc, j'apporte bêtement, dans une petite valise, toutes les diapos que j'avais, dont beaucoup de Picasso. Et à la fin de la croisière, on a volé 2 valises, la mienne, cette petite valise-là, et la valise des diamants de la mère du directeur de la compagnie de ce bateau. Et je pense que le type, quand il a dû ouvrir ma valise et voir les diapos, il a dû la foutre à la mer, et quand il a ouvert la valise de la dame, il a mis la valise à la mer, mais il a gardé les diamants. Voilà. Et alors moi, ça m'a découragé. Pendant quelques années, j'ai plus fait de photo couleur, puisque c'est comme ça. Et puis, petit à petit, je me suis remis. Il y avait quand même un obstacle. C'est que la reproduction, le tirage sur papier n'était pas au point. C'était pas de très bonne qualité. Ça passait vite. Et puis est arrivé, d'abord, j'ai connu un personnage qui est à Savigny-sur-Orge, qui s'appelle Michel Fresson, qui est le descendant du fameux Fresson qui avait inventé le tirage au charbon pour 2 Machy au tournant du siècle. Et là, je découvrais quelque chose d'exceptionnel. Le seul au monde à faire ça. Et puis est arrivé ce produit magique, le Cibachrome. Alors là, on était comblés. On pouvait espérer avoir des choses de qualité. Et donc, depuis, j'ai fait... je me partage entre la couleur et le noir et blanc. Il y a des choses qui sont faites pour la couleur, il y a des choses qui sont faites pour le noir et blanc.
Sur impression, la superposition...
Ça, c'est couleur.
C'est couleur, hein.
Mais indispensable, autrement, ça ne veut rien dire. Là, je joue sur... Je transforme les couleurs. J'utilise la lumière des musées. Je n'apporte rien comme éclairage complémentaire. Donc... je joue sur la dualité entre la lumière artificielle des musées et la lumière du jour, où j'ai fait le premier sujet, c'est-à-dire soit la corrida, soit les nus. Et ensuite, je vais dans les musées, et là, je prends la lumière qui se présente. Et on trouve des surprises étonnantes. Même dans un même musée, il y a des différences d'éclairage de salle qui sont parfois perturbantes.
Ça veut dire que vous travaillez seul, surtout, si vous prenez la lumière naturelle si...
Moi, je pense
pas d'assistant.
Je veux dire... Je ne me déplace pas avec des assistants, des caisses de matériel et tout ça. Je suis tout seul avec un appareil. Et puis, j'essaie d'avoir la même émotion que vous pouvez avoir lorsque vous visitez une exposition, vous regardez un paysage, ou... je ne sais pas quel est le regard des femmes sur les hommes, mais moi, je sais quel est le regard des hommes sur les femmes. Donc, voilà. On ne peut pas être encombré d'une armada de types autour qui vous tendent l'appareil, qui rechargent le truc et tout. Moi, ça fait partie du jeu. Pendant que je recharge l'appareil, c'est un petit repos visuel. Je fais reposer mes yeux et je peux parler un peu avec le modèle et puis on recommence. Un rythme que je me suis donné.
Oui, plus d'espace pour une relation, pour un dialogue.
Absolument.
Est-ce que ça vous dirait de prendre une des photographies qui vient d'être publiée dans votre monographie, publiée aux éditions La Martinière, nous l'expliquer ou la commenter ou la décrire?
Oui, je pourrais. Bon, évidemment, il y en a là beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Par exemple, tiens, voilà une photographie. C'est une photographie de roseaux qui sont plus ou moins coupés et qui se reflètent dans l'eau d'un marécage en Camargue. C'est tout près des Saintes-Maries-de-la-Mer. Or, il y a toujours en Camargue une station biologique qui s'appelle la Tour du Valard, qui a été fondée par un homme exceptionnel qui s'appelle Luc Hoffmann, dont la mère, Maya Sacher, qui a été veuve très tôt et qui s'est remariée avec le chef d'orchestre Paul Sacher à Bâle. Et Paul Sacher a commandé littéralement à Béla Bartók, à Martinou, à Honegger, à tous ces gens-là, des partitions qu'il a créées, qu'il a dirigées le premier et qu'il a créées. Et un jour, j'ai montré mes photographies à Maya Sacher, qui m'a dit « Mais ce sont les partitions des compositeurs qui font les choses pour Paul. Alors, je vais vous en acheter, je vais leur offrir. » Donc, je ne sais pas ce que sont devenues ces photographies. Je serais curieux de savoir ce que les héritiers en ont fait, puisque pratiquement tout le monde est mort. Mais J'ai eu un privilège rarissime, c'est que j'ai vécu une semaine dans le chalet que Maya Sacher avait loué pour Béla Bartók en 1939, juste avant la guerre, à Sanen, près de Gstaad, là où Mio Di Menuhin a fait pendant longtemps un festival dans cette petite chapelle. Et j'ai fait là tout un travail qui s'appelle La Suite Rouge en hommage à Béla Bartók, que je suis allé montrer à Maya Sacher, évidemment, qu'il a acheté immédiatement pour l'offrir pour les 70 ans de son mari Paul. Donc voilà, vous voyez, une photographie comme ça, elle a l'air de rien, mais elle a toute une histoire autour d'elle. Et ce serait, si on prenait le livre, chaque page, je pourrais vous en raconter comme ça, indéfiniment. Ce qui veut dire que nous sommes à l'intérieur d'un monde dont nous tenons les clés, mais il y a des portes qu'on peut ouvrir et d'autres qu'on ne peut pas encore ouvrir. Donc j'ai encore, j'espère, beaucoup de portes à ouvrir. Et j'espère que la fréquentation de l'académie et des académiciens, de mes collègues et de mes frères d'armes qui sont les peintres, les sculpteurs, les musiciens et autres, m'aidera à trouver le secret de ces portes.
Merci Lucien Clerc. Merci de nous avoir honorés de votre présence au studio de Canal Académie. Et je crois que nous vous devons en retour une visite à Arles, votre ville natale. Merci et bonne entrée à l'Académie des Beaux-Arts.